Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
La chatte,
je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
Not too bad.
Du numéro 1 mondial, l'Espagnol, Rafael Nadal.
Salut, c'est Max, bienvenue sur le podcast Tennis Légende. On vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on va prendre le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro pour diffuser un nouvel épisode chaque mardi, alors abonne-toi tout de suite au podcast pour être sûr de ne rien rater. Si tu veux être une légende dans notre cœur, le meilleur moyen de nous aider à créer de nouveaux épisodes, c'est de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et d'en parler autour de toi à tes amis fans de sport et de tennis. Pour la seconde partie de ce premier épisode, Joe soulève un point très important de son vécu en tant que métisse en cette période mouvementée suite au Black Lives Matter. Il nous emmène après avec beaucoup d'émotion et de sincérité au Congo, à la rencontre de son grand-père et de ses origines. On va aussi parler prize money et sponsors sans langue de bois, de la responsabilité d'être papa sur le circuit, de l'après-carrière qui approche, et on terminera avec une anecdote sympa sur Roger. Pour celles et ceux qui préfèrent la vidéo, l'épisode est également sur la chaîne YouTube Tennis Légende. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Est-ce que tu te souviens de ton plus gros pétage de plomb sur un court ?
Oh, il y en a eu plein. Il y en a eu tellement que je peux même pas m'en souvenir, en fait. Parce que c'est ce sport-là, il est terrible. C'est terrible, tout ça boue. Moi, je suis vachement dans l'action sur le terrain, donc voilà, je suis un bon bélier, j'ai envie d'y aller, quoi. Mais non, je me rappelle pas avoir vraiment pété les plombs. Après, je me souviens, mais je m'énerve beaucoup. Je suis dedans, quoi. Je suis passionné et tout, mais je suis pas vraiment quelqu'un qui pète les plombs. Et si vous en parlez avec mes proches et les gens qui sont autour, là, ils vous diront, mais Joe, c'est le calme olympien, quoi. Même quand son fils, il le rend fou pendant 3 jours, il bouge pas.
T'as pris plusieurs amendes?
Il me semble que j'ai jamais pris d'amende. Ils ont voulu m'en mettre une fois à l'US Open. Et en fait, je suis allé les voir en leur disant, écoutez, ça fait 8 ans que je joue, j'ai jamais pris d'amende. Vous allez me mettre une amende parce que j'ai pitché ma raquette une fois, c'est pas sérieux. Ils ont reconnu que j'avais pas fait grand chose, quoi.
On a fait un épisode avec Chloé Paquet qui m'expliquait que Benoît Paire avait réussi à lui faire sauter une amende de 2 000 euros à Roland. Fin négociateur, le Benoît. Je me rends compte que vous négociez tous un peu plus ou moins. Bon, après, c'est légitime, évidemment, en 8 ans.
La chose, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un code de conduite, entre guillemets. Mais c'est un code de conduite qui est vachement à l'appréciation des arbitres et des autorités quand même. Parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que nous, demain, dans ma langue, si je jure, ça va dépendre comment je vais jurer. Parce que des fois, tu jures pour toi. T'as encore, je pense, cette liberté à un moment donné de parler pour toi. Après, si tu jures et tu commences à le crier et que tout le monde l'entend et qu'à la télé, on l'entend très fort… oui, ça a un impact, mais quand tu le fais pour toi et tu l'as juste fait, il y a que l'arbitre qui l'a entendu et qui te met une pénalité pour ça et que tu vas payer peut-être 2 000 $ parce que t'as sorti un petit merde, ça va pas, tu vois.
T'as eu Eric Winograski pendant 7 ans en tant que coach. Qu'est-ce qui t'a appris particulièrement?
Je pense qu'au-delà de ce qu'il m'a appris, parce qu'il m'a appris plein de choses, on a travaillé énormément. Je pense que ce que j'ai retenu le plus, en fait, c'est sa loyauté, son dévouement auprès de moi. Parce que c'est pas facile pour les coachs. Parce que les coachs, souvent, régulièrement, ils ont des familles, ils ont des enfants, et ils quittent leur cocon familial pour nous suivre 40 semaines dans l'année à travers le monde. Ils font énormément de sacrifices. En dehors aussi de tout ça, ils font énormément de sacrifices de vie, en fait. Et donc ça, c'est ce qui me touche le plus, tu vois, d'avoir quelqu'un à mes côtés qui est capable de quitter son enfant, de quitter sa femme et de quitter son petit confort pour pour t'accompagner, pour t'aider toi à te réaliser. Ça pour moi c'était voilà, c'est hyper touchant. C'est ça que je vais retenir d'Eric, parce que quand je me suis blessé au dos, on s'entraînait ensemble. Ouais. Nos débuts ont été un peu chaotiques parce que j'étais à la fédération. Eric, ça a été un entraîneur que la fédération m'a donné. J'ai pas choisi d'être avec Eric. On m'a dit bon bah voilà, toi ton entraîneur c'est Eric Vinogradsky. Et au début ça a été un peu chaotique, ça a été difficile. On avait mis du temps à se comprendre. Et en fait quand je me suis blessé, ça a été le début de tout, parce que lui il m'a dit écoute, je te lâcherai jamais. Voilà, moi je suis avec toi et je sais pas pourquoi, je sens que t'as le truc, et même malgré cette blessure là, on va traverser le truc ensemble, tu vois. Et ça a été une histoire, je pense une vraie histoire d'amitié. Et moi je fonctionne beaucoup comme ça. J'ai besoin de faire confiance aux gens. J'ai besoin de, voilà, je considère que la vie c'est une histoire d'amitié, d'amour, et puis c'est tout quoi. Après le reste, c'est tout est futile.
Pourquoi ça s'est terminé?
Bah, je pense que ça s'est terminé parce que à un moment donné, on avait vécu tellement de trucs incroyables ensemble que on arrivait au bout de quelque chose. Au bout de quelque chose, moi j'avais envie de découvrir, hein, j'avais envie de m'ouvrir justement. Je pense que j'avais envie de commencer à écouter d'autres discours, à écouter d'autres choses. On en a parlé tout à l'heure, de vraiment m'ouvrir à tout ce qu'il y a autour pour essayer de continuer à, évidemment, apprendre des choses et à progresser. Et c'est vrai qu'avec Eric, on avait vécu déjà tellement de choses. Je pense qu'on avait fait le tour, entre guillemets, de notre relation professionnelle. Et pour pas entacher notre relation amicale, je pense que c'était mieux de s'arrêter là. Parce que moi, je voulais le garder comme ami et je voulais pas que des tensions subsistent, tu vois, entre nous, quoi.
Justement, derrière, t'es allé chercher un Australien, Roger Rachid, pendant, ça a duré 7 mois. Qu'est-ce qui t'a apporté et pourquoi ça a été assez court?
Bah, il m'a apporté énormément de choses. Déjà, une autre vision du tennis, ouais, clairement. Parce qu'en fait, en France, on a un état d'esprit. Cet état d'esprit, il a été construit à travers des victoires et des désillusions du tennis français. Et moi, j'ai toujours vécu à travers cet état d'esprit jusqu'à ce moment-là, en fait, parce que j'étais en lien avec les joueurs français, beaucoup surtout, et en fait, j'avais envie de m'échapper, j'avais envie d'aller comprendre ce que les étrangers, ils étaient capables de faire différemment. Pourquoi, bah, nous, on n'arrivait pas à aller plus loin. Alors, ça m'a pas forcément apporté toutes les réponses, mais en tout cas, ça m'en a apporté quelques-unes, qui m'ont permis encore de progresser, parce que dans ma carrière, je pense avoir progresser tout au long de ma carrière. C'est un joueur qui stagne, c'est un joueur qui recule, en fait. Un joueur qui garde le même niveau, c'est un joueur qui recule, parce que tout le monde avance, tout le monde s'entraîne dur, les performances au fur et à mesure du temps s'améliorent, parce qu'il y a de nouveaux joueurs, de nouveaux athlètes, avec de nouvelles technologies qui arrivent, avec de nouvelles réussites de la médecine, ce genre de choses. Donc voilà, donc moi c'était un pouvoir de nouveaux trucs et grâce à ça j'ai découvert de nouveaux trucs.
Qu'est-ce que l'association avec BIF t'apporte depuis 2013 à temps partiel et 2015 à temps complet?
Bah en fait ce qui s'est passé c'est que avec Roger j'ai fait de super résultats, c'était vraiment incroyable, on joue bien. Et en fait j'ai de nouveau eu un gros problème au genou. J'avais des douleurs en fait aussi un peu partout, je ressentais mon corps vraiment difficilement. Et en fait quand j'ai arrêté avec Roger, c'était surtout parce qu'en fait je me demandais si j'allais continuer à jouer au tennis, en fait. Et comme lui il était australien, c'était difficile pour lui, il était loin de sa famille, donc il fallait qu'on se enfin, c'était difficile pour moi, il fallait que je le fasse venir, repartir, tout ça, tout était un peu compliqué. J'avais l'impression de pas l'avoir sous la main tout le temps, c'était pas forcément simple. C'était un super entraîneur, mais moi je savais plus où j'en étais dans ma carrière, que j'avais envie de continuer ou pas, parce que je souffrais beaucoup à l'entraînement. Donc voilà. Et puis bah Thierry c'était plus un ami, évidemment, que quelqu'un que je voyais comme un entraîneur au départ. Et puis en fait au moment où j'ai arrêté avec Roger, j'étais un peu moins bien mentalement. Et puis lors d'un dîner avec Thierry et Nico Scud, je fais part un peu de mes états d'âme, que commence à plus trop prendre des plaisirs sur le terrain parce que je souffre trop, ça commence à être vraiment difficile. Puis il commence à vouloir évidemment me dire mais non, attends, tu vois, ça va, tu peux encore revenir, tu peux encore faire des choses incroyables et tout ça. Enfin, essayer de me remonter le moral. Et puis je leur dis, bah puisque vous faites les malins, vous allez m'entraîner, parce que ça a l'air d'être si simple que je revienne. Et puis donc c'était sur une discussion un peu comme ça. Et puis ils se regardent, et puis on se regarde tous, et puis on se dit vas-y, chiffre, on fait ça. Et puis et voilà, alors on savait que ça allait faire causer les uns et les autres. Moi, je savais que c'était des trucs touchy, parce que les gens, ils pensent que ta carrière leur appartient. Mais moi, je savais que j'avais envie de faire ce que je voulais. Et que moi, je considérais que être avec des gens que j'apprécie, qui en plus ont été au niveau, et en plus qui étaient, des gens bienveillants auprès de moi, bah, ça allait être... que ça allait être fructueux. Et finalement, ils m'ont monté les mecs comme une pendule. Et l'année d'après, je regagnais un Master 1000. Je battais Federer, Djoko et Murray à la suite, quoi.
On sait.
Donc ça a été, ils m'ont remis en selle et on a passé des bons moments. C'était cool.
C'est le meilleur souvenir que tu as vécu à Toronto?
Ouais, à Toronto, après, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, mais oui, Toronto, incroyable. Parce que Toronto, je bats Dimitrov, Murray, Djokovic, Federer à la suite, quoi. Pour finir, pour battre Federer en finale. Enfin, je suis pas le genre de gars qui a battu, je sais pas, moi, un joueur 50e mondial en finale ou un joueur même 10, ou même 15e.
Yevgeny Donskoy en finale.
Ouais, voilà. C'est pas, Yevgeny Kafelnikov, tu sais.
Qui sert à rien.
Non, c'est voilà. Moi, j'ai toujours été fier de ça. Dans ma carrière, le truc que je vais retenir, il y a plein de choses que je retiens positives, bien sûr. Mais c'est d'avoir battu des grands joueurs en finale, quoi. J'ai battu Del Potro en finale à Vienne. J'ai battu Djokovic en finale à Bangkok. J'ai battu des grands joueurs en finale. Et ça, je suis assez fier de ça. Voilà, je suis pas fier de tout ce que j'ai fait en carrière, mais ça, c'est pas mal.
Il y a une expérience de ouf que t'as vécue et j'aimerais bien que tu nous racontes dans les grandes lignes. Suite à un épisode fait avec Antoine Couvercel, le fils de Jean qui a créé Tennis Magazine, il t'a accompagné, t'es allé voir ton grand-père juste après l'Open d'Australie en 2008 à Pointe-Noire en République du Congo. Et ce qui est fou, c'est que Antoine, qui est photographe professionnel sur le circuit, m'a confié que c'était son plus grand souvenir de tennis. Sachant que ça reste de l'extra, parce que c'est des moments de vie, c'est des moments de partage. C'est pas prendre une photo sur le central de Wim. Et évidemment, si c'est son plus grand moment à lui, j'imagine que pour toi, ça a une saveur de dingue. Comment tu l'as vécu?
Pour moi, c'était particulier. C'était particulier, encore une fois. C'était compliqué parce qu'en fait, ma grand-mère a été décédée, mais il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Et je l'avais jamais vue, en fait. Et l'année d'avant, moi, j'étais 200, une année avant d'aller jouer, là, j'étais 200 et quelques mille, là, j'étais plongé dans mon truc de tennis, et mon père, il est pas retourné beaucoup parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Donc, quand il retournait là-bas, il allait tout seul. Et moi, ça a été un gros choc quand ma grand-mère a décidé de pas l'avoir vu lui parler.
Ouais.
Du coup, je suis allé au Congo pour voir mon grand-père. En fait, dès que j'ai fini l'Australie, bam, j'ai dit le premier truc que je fais. Maintenant, c'est je vais voir mon grand-père et il n'y a rien d'autre qui me... Voilà. Et ça a été un moment particulier, quoi. C'est difficile de mettre des mots sur ces moments-là parce que c'est des moments... c'est à part. Mais...
Et tu y es retourné quelques fois?
Non, depuis, ensuite il est décédé, mon grand-père, et du coup, je suis pas retourné beaucoup. C'est difficile pour moi le lien avec le. En fait, j'adore la culture de mon papa. J'ai baigné dedans. J'ai baigné dedans étant petit parce qu'il avait beaucoup d'amis qui avaient fait le même trajet que lui en France.
Ouais.
Qui étaient mariés avec des Français. Donc moi, j'avais plein de copains métis comme moi. On n'en parle pas souvent. En fait, on parle souvent des blancs, des noirs. Ça, on parle jamais, ou du moins pas souvent, du paradoxe d'être, d'être métissé. J'en reviens à ce mot-là parce que c'est un vrai truc. On parle pas souvent des métissés, des gens qui savent pas d'où ils sont, en fait.
Ouais.
Ils savent qu'ils sont, en fait, ils savent d'où ils viennent, ils savent qu'ils sont nés en France. Enfin, un garçon comme moi, bah, né en France, français, de culture française. 100% presque. Mais à côté de ça, bah, il y a, enfin, je dis presque 100%, enfin, il y a même pas de pourcentage, c'est que je suis français, point. Et à côté de ça, une culture africaine aux antipodes de la culture française dans pas mal de domaines. Et quand on se retrouve en France et puis que on est des fois, parfois, confronté à des problèmes, je sais pas quel mot employer, j'aime pas le mot racisme, j'aime pas le mot peut-être discrimination, un peu, même pas. Je sais pas, mais quand on est confronté, en tout cas, à des
jugements, quoi.
Ouais, voilà, confronté à des jugements particuliers. Ici, en France, et qu'en fait, bah, quand tu vas en Afrique, tu te rends compte, ou quand tu discutes avec des Africains, bah, tu te rends compte aussi que t'as les mêmes jugements.
Ouais.
Que c'est la même chose que, en fait, tu te rends compte que t'es pas Africain, t'es pas forcément noir. Et quand t'es ici, en Occident, t'es pas forcément. Et donc ce sujet-là, il est maltraité. Et je pense que tous les métissés du monde en ont souffert dans leur vie de ce truc-là, parce que tu sais pas, t'as du mal à trouver ta place. T'as du mal à trouver ta place, et ça prend du temps pour la trouver. Ça prend du temps. Et pour moi, aller au Congo, tout ça, ça faisait partie du processus pour comprendre qui j'étais, qui je suis, ce que j'ai envie de devenir, ce que j'ai envie de représenter, tout ça. Donc en ça, ce voyage-là, il était hyper bénéfique pour moi, hyper important. Évidemment, le fait de voir mon grand-père avant qu'il parte. Mais ouais, ça, c'est le fait de comprendre d'où on vient et tout ça, ça aide quand même à savoir où on veut aller.
J'avais lu une anecdote assez marrante où tu disais, quand t'as fait une demi à Roland, on faisait pas mal de comparaison, de rapprochement avec Yannick, évidemment, parce que c'était 20 ans après, non, au plus 30 ans après. Les statisticiens commençaient à faire des rapprochements, à l'alignement des planètes et tout, et toi, t'avais répondu, j'en sais rien, je fais pas de calcul, moi, tout ce que je sais, c'est que quand Yann chante, je danse. Et en gros, tu disais que quand t'es parti là-bas, t'as ressenti un peu cet attrait pour la musique, pour la danse, pour la culture, ouais, c'est ça, t'as compris un peu mieux qui t'étais, quoi. C'est ça qui est incroyable.
Exactement. En fait, tu comprends un peu mieux qui t'es. Parce que souvent, on va voir un petit métissé, on va se dire, bah, il sait que chez lui. Non, quand t'as grandi en France, ta culture, elle est française. On va dire que, avec tes amis, t'écoutes de la musique française. Tu sais pas ce que c'est que de l'autre côté, en fait. Mais on assimile, on se dit, tout le monde se dit que toi, t'es ce qu'il y a là-bas. Donc c'était intéressant d'aller voir réellement ce qu'il y avait là-bas pour comprendre des choses. C'est vrai que c'était une expérience pour moi top. En fait, ce qui est marrant, tu vois, c'est que je suis arrivé. En fait, j'ai dû aller chez le président tout de suite, en fait, quand je suis arrivé.
Ok.
Et donc en fait, j'étais habillé, j'avais un costume pour faire genre je suis classe. Aujourd'hui, je me dis, on s'en fout, j'aurais pu y aller en short.
Ouais.
C'est ma façon de penser, je suis un peu j'étais en costume, et en fait quand je suis sorti de l'avion, ils annoncent la température de l'air est de 35 degrés et tout ça. Je me suis dit, ouais, je vais crever de chaud avec mon costume et tout. Et en fait pas du tout, je suis arrivé, j'ai l'impression que j'étais chez moi. Je suis arrivé, je ne transpire même pas une goutte. J'ai dit, mais c'est incroyable, en France, si je mets un costume à cette température là là-bas, non, j'étais comme un poisson dans l'eau et tout. Il y avait des odeurs, je me disais, c'est bizarre, je les connais, ces odeurs.
Incroyable.
C'était des odeurs qui me rappellent trop de choses. Je sais pas ce que ça me rappelle, mais ça me rappelle quelque chose. Et donc ouais, et tout de suite, je me suis dit, je suis chez moi. Et en plus, ce qui était ouf, c'est que je suis sorti de l'avion à 100 mètres sur le tarmac. Il y avait mon grand-père avec sa canne, on me verrait, son costume bien taillé et tout, comme ça. Il était un peu voûté et tout. Et là, je me suis dit, wow. Là, c'est chaud quand même.
Ça a dû fondre en larmes, ça a dû émotionnellement, ah, ça y est quelque chose.
Émotionnellement, c'était hyper fort, hyper fort.
Incroyable. Alors, la transition va être un peu grand écart. Joe, tu as gagné, du coup, quand même, ça mérite d'être précisé, 20, en prize money, 22 157 662 euros.
662 euros, ça mérite d'être précisé. Est-ce que du coup, ça va, toute la fratrie est au chaud, t'es la personne sur ce podcast qui intervient, qui a clairement gagné le plus. Enfin, c'est assez impressionnant, quoi, de l'extérieur. Quel regard tu portes sur ce montant, finalement, avec un peu de recul? Même si ta carrière est pas finie, quoi.
Des chiffres,
quoi. Ok.
Des chiffres, parce que ça change pas ma personne, hein. Donc des chiffres, j'avoue que ça file les tournées, en fait, quand t'es jeune, tu gagnes autant d'argent, c'est irréel, hein. Franchement, on n'est pas préparé à ça. On n'est pas préparé à ça, de gagner autant d'argent jeune, parce que gérer de l'argent, c'est un métier.
Ouais.
Aujourd'hui, on a des banquiers pour ça, des gestionnaires de patrimoine, des grands patrons d'entreprise, ils gèrent l'argent. Ils manipulent l'argent, ils font des choses avec l'argent et tout ça. Mais quand t'es jeune, c'est pas ton métier. Genre encore moins quand t'es sportif et que tu joues au tennis et que tu fais ça depuis, je sais pas, et que tu consacres qu'à ça pratiquement. Donc, c'est un choc. L'argent, elle a plusieurs aspects. Elle a un aspect qui peut être évidemment positif quand tu sais quoi en faire. Et puis, elle peut avoir un aspect destructeur en termes de relations. En termes de possibilités aussi, parce que le problème, c'est que des fois, si t'es pas bien dans ta tête, si t'es pas au top, tu peux l'utiliser de mauvaise manière et en oublier, entre guillemets, les civilités, quoi.
Ouais.
Donc, ça a été, j'ai eu de la chance, je pense, d'avoir une éducation très stable à ce niveau-là. Et dès le début, tout le monde me disait, j'avais plein de copains qui me disaient, ouais, tu peux acheter des Ferrari et tout, machin. Je disais, ouais, mais pour moi, c'est des chiffres, pour l'instant. L'argent que je vais gagner, c'est le respect que je vais avoir des autres, en fait. J'ai l'impression que je suis vraiment riche du respect des autres, quoi. Évidemment, je souhaite à tout le monde d'avoir un peu de sous, parce que ça aide énormément dans le quotidien, on va dire dans la pénibilité des choses. Mais ça achète pas l'amour, ça achète pas les amis, ça achète pas le fait d'être heureux, ça c'est sûr, et je suis de loin pas le premier à le dire, je pense.
Tu te souviens du premier gros chèque que t'as encaissé, ce que t'as ressenti?
Ouais, bah le premier énorme chèque que j'ai touché, on va dire que c'est l'Open d'Australie, quoi.
Ah ouais.
La finale d'Australie, je sais plus à l'époque, je sais pas, j'ai dû toucher en plus. Il y a les impôts là-bas en Australie, donc les impôts, je pense que c'était 35%. J'ai dû toucher 350 000 euros, peut-être.
Ça fait du bien, ouais.
Bah, ça m'a déjà fait pas mal de bien. Mais bon, en sachant que ma cellule d'entraînement, elle me coûtait 700 à 800 000 euros, quoi.
Par an, ouais.
Ouais. Donc, c'est clair que ça fait du bien, hein. Mais bon, voilà, tu disais, bon.
Comme tu dis tout à l'heure, c'était un investissement sur toi, ouais, incroyable.
Bah, c'est ça, tu vois. Donc, je me disais, ok, très bien, mais c'est des chiffres, je vais pas dépenser un centime. Les seuls centimes que je vais dépenser, c'est pour mettre ma famille, pour aider mes parents, pour faire ci, pour aider les études à mon frère, à ma sœur, les trucs, les machins. Et pour moi, j'en avais pas besoin. J'avais ce qu'il me fallait, j'avais le tennis. Je jouais.
Ça a été quoi, tes quelques craquages financiers qui, avec un peu de recul, avaient pas forcément beaucoup de sens?
Aucun.
Ok.
Je suis pas quelqu'un qui jette l'argent dans le vide. J'ai jamais eu de vraie voiture de sport. J'ai eu une Audi RS5. On va dire que c'est la voiture la plus flashy, hein. Ce que j'aimais bien, justement, c'est que ça faisait un peu berline. On savait pas ce qu'il y avait sous le capot.
Un peu planqué.
Mais j'ai jamais eu de Porsche, de Ferrari, des trucs comme ça. C'est pas trop mon délire. Je suis très utile. Je suis quelqu'un, j'ai besoin de faire les choses pour une bonne raison. Pour une bonne raison. Par contre, je suis très maison. Donc, évidemment, pour moi, l'environnement, là où je suis, mon confort de vie, c'était important. Déjà en tant que joueur de tennis et puis après ensuite en tant qu'être humain, parce que j'ai envie d'être bien, tu vois. Là maintenant avec ma famille et tout, j'ai envie d'être au top. Mais je savais qu'en mettant dans le bâtiment, ça restait chez moi.
C'est bon, ça. Comment tu conseillerais Sugar aujourd'hui, s'il s'apprêtait, donc ton fils, hein, s'il s'apprêtait à signer le contrat que tu as pu signer pour la pub Kinder Bueno? Qu'est-ce que tu lui dirais?
Il n'y a pas besoin, il y a papa qui est là.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cette pub, elle t'a mis à l'abri, clairement.
C'est bien ça le problème, c'est que je crois pas. Hein. Elle était bien, hein. Elle était bien, mais c'est pas là, justement, c'est parce qu'à l'époque, c'est un monde qui est dur. Parce que moi, mes parents, ils travaillaient, j'étais tout seul, j'allais signer mes contrats tout seul, j'allais démarcher un agent tout seul. J'allais du coup décharger les sponsors tout seul, j'allais faire tout seul. Donc, t'apprends, hein, t'as des bêtises, hein, des fois. Alors, ça a été évidemment un plus pour moi, ça a été un beau contrat et tout ça. Mais avec le succès qu'il a eu, le recul, je me dis qu'évidemment, ça aurait pu être le contrat qui m'aurait mis à l'abri. Mais je suis très fier, hein, je suis très fier d'avoir eu ce contrat-là, au-delà de ce que ça m'a rapporté, évidemment, financièrement, parce que, évidemment, je l'ai pas fait gracieusement. On a fait aussi de super bonnes actions. Je suis parrain d'un village, du village Kinder. C'est un village, en fait, qui invite à peu près 1000 enfants chaque été à vivre des vacances, où ils font des activités, ils apprennent à nager, ils font du pop, ils font de la voile, ils font du tennis, du basket. C'est des jeunes qui n'ont pas la possibilité, les parents n'ont pas la possibilité de les amener en vacances. Et donc, à travers justement ce genre de partenariat, j'ai contribué à faire des choses qui pour moi étaient importantes et qui égoïstement, très égoïstement même, m'ont apporté beaucoup de satisfaction.
La roue a bien tourné parce que pour un gars qui allait démarcher ses premiers contrats au départ, aujourd'hui, tu es quand même accompagné par Adidas et Rolex. Rolex qui a un prestige incroyable. Enfin, c'est le contrat rêvé, clairement. Comment tu vis un truc pareil? C'est quand même un régal. Tu termines ton match, t'ouvres ta housse de tennis, t'enfiles ta Rolex, on te l'a offert. Enfin, c'est beau quand même.
Oui, non, bien sûr. C'est clair que ça a une grosse hyper quali comme sponsor. Et au-delà de la valeur intrinsèque de l'entreprise, c'est pareil. En fait, c'est des gens qui ont été hyper loyaux avec moi, qui le sont toujours d'ailleurs, et qui m'ont accompagné tout au long de ma carrière, et pas seulement sur le côté sportif, mais aussi sur le côté caritatif. Ils m'ont toujours soutenu quand mes parents ont lancé une association pour aider au développement du sport, que ce soit un peu en France et en Afrique. Ils ont été là, ils m'ont soutenu dans toutes quand j'ai fait les camps pour les enfants l'été là qui s'appelle les Tsonga camps. Ils étaient là. À chaque fois que je me suis investi dans quelque chose entre guillemets à but associatif ou autre. Ouais. Ils ont été derrière moi. Ils ont été derrière moi, que ce soit Ferrero, Rolex, Adidas, Babola et plein d'autres. J'en oublie là, Bastide Médical, Forte Pharma. C'est des gens en fait. Quand j'ai besoin entre guillemets d'un petit coup de pouce pour faire des bonnes actions, qui me disent jamais non, et ça c'est appréciable.
Tu te souviens de ta toute première dotation de fringues? Est-ce que tu as ressenti en ouvrant le carton?
Ah, la fierté, maman.
C'était quoi?
Adidas, de malade, j'avais des tenues Rios dedans, là, Fitwear, c'était dingue.
T'étais pas avec Reebok avant?
Non, moi j'ai toujours été avec Adidas, j'ai fait une petite virgule à un moment donné sur 2 ou 3 ans, mais j'ai fait toute ma carrière en Adidas, et certainement ça va durer encore longtemps. Non, et j'avais reçu donc un carton Adidas, j'étais à Poitiers à l'époque, et ce qui était fou, c'est que moi je m'habillais en... Tous mes copains, ils avaient des contrats, et moi comme j'étais pas très bon, enfin j'étais pas le meilleur de mon âge, moi j'avais pas de contrat, donc moi j'avais des vêtements Décathlon, voilà, et je regardais les autres avec leur Nike, leur Reebok, leur Adidas, leur truc, et je disais, wow, franchement, ils sont trop classe. Ils sont trop classe. Et un jour, il y a le gars d'Adidas qui est venu au centre où j'étais là et qui m'a dit, si tu veux, je peux t'envoyer quelques trucs et tout ça. Et j'ai dit, carrément.
Je sais pas, laisse-moi réfléchir. Ok, ok.
Non, je n'ai pas écouté une seconde. J'ai dit, bah, carrément, vas-y, tu m'as envoyé, au revoir. Hein. Ça me fait plaisir. Et donc, il m'a envoyé 4 paires de chaussures, 5 paires de chaussettes, 4 shorts, 4 chemises. Voilà, j'étais comme un fou.
Aujourd'hui, tu as une orga autour de toi pour organiser cet épisode de podcast. Je suis passé par un dénommé Samy qui nous a mis en contact. Il y a une fille aussi, je crois, qui est dans ton équipe. Comment s'organise tout ça autour de toi? Comment tu gères tes réseaux sociaux, ta com? Qui gère quoi?
J'ai Samy qui travaille pour moi. Il y a mon compte depuis une année maintenant. En fait, on travaillait dans une agence avant. Il travaillait dans une agence avant avec qui moi je travaillais. Ouais. Et maintenant, on travaille ensemble parce qu'on a plein de projets qu'on est en train de développer ensemble. Et voilà, j'ai besoin de ses services pour avancer. Donc, il s'occupe de tout ce qui est communication et sponsor pour moi. Voilà. Ensuite, j'ai ma sœur qui s'occupe de toute ma logistique. Voilà, qui va réserver mes hôtels, mes trucs. J'ai mon entraîneur physique qui s'appelle Xavier Moreau. Enfin, j'en ai deux, Jean-Michel Lévesque et Xavier Moreau, qui travaillent pour la même boîte. Thierry Assion et Sergi Bruguera, qui sont mes entraîneurs de tennis, qui se succèdent un peu, enfin, qui se relaye dans l'année. J'ai un kiné avec Kelsey aussi. Voilà.
Qu'est-ce que la paternité a changé dans ton approche du circuit?
Oh, beaucoup de recul. Beaucoup de recul, surtout qu'il est arrivé à une période où je commençais un peu à plus trop supporter les commentaires des fois désobligeants des uns et des autres. Et en fait, beaucoup de relativisme, de dire que quand les gens, des fois, ils disent quelque chose qui ne plaît pas, ils n'en font pas toujours exprès et puis ils ne se rendent pas forcément toujours compte. Ils n'ont pas les tenants, les aboutissants de tout et qu'il faut, il faut leur pardonner ça et être un peu plus soft.
Hier, je parlais avec ma sœur et je lui disais que j'étais super content d'avoir cette interview avec toi ce matin. Je lui disais, s'il y a un truc que je regrette avec mon père, c'est que quand j'avais 9 ans, je me souviens, je lui ai dit, papa, tu penses que je vais être professionnel de tennis? Et il me dit, honnêtement, Max, non. Et franchement, je pense qu'il a été honnête, mais avec du recul, je trouve ça un peu dur. Comment tu réagirais, toi, si Sugar te posait la même question à ses 8-9 ans? Et comment tu gérerais ce genre de réponse?
Comment je gère? C'est mon fils, il me dit, je vais être joueur de tennis professionnel.
Ouais, et tu sais pas, t'en es pas sûr, il n'y a aucune certitude à 9-10 ans, tu vois. Qu'est-ce que tu lui répondrais, toi?
Moi, je vais lui dire que non, il va pas être joueur professionnel, il va être le meilleur.
Bon.
Je vais dire qu'il va être le meilleur. Il y a des gens qui nous diront, non, on ne peut pas savoir. Je leur dirais, oui, vous ne pouvez pas savoir.
Mais?
Vous ne pouvez pas savoir. Et s'il l'est, vous faites comment? Vous allez dire, vous ne pouvez pas savoir? Non, vous aussi, vous ne pouvez pas savoir. Personne ne peut savoir. Ouais. Mais à partir du moment où lui, dans sa tête, il a envie d'y aller, pourquoi essayer de l'en empêcher?
J'ai vu que tu étais fan de pêche. Est-ce que tu aurais un petit conseil à nous donner sur le sujet?
Je peux pas te donner un conseil de pêche. Ça ne donne pas les conseils de pêche. Moi, je garde mes petits endroits pour moi, puis tu gardes des tiens pour toi.
Ah, le mec est comme ça. Ok.
Je suis tennisman, là, tu vois, en mode solo. Tu vois. C'est marrant parce que j'ai un pote avec qui on va à la pêche, tu vois, et on se traite de tennisman, tu vois. Parce que quand on va à deux à la pêche, c'est difficile parce que les meilleurs endroits, on se dit, qui est-ce qui va mettre sa ligne aux meilleurs endroits, tu vois?
Ouais.
Et à chaque fois, on se dit, et quand le mec, il commence à aller un peu vite pour passer devant, pour aller prendre le bon spot, tu vois, on dit, ça y est, le mec fait son tennisman, tu vois, ça y est. L'esprit tennis, voilà, tu vois, parce que nous, ça nous horripile, tu vois. Et c'est vrai que dans le tennis, souvent, on est quand même un peu selfish, on est un peu solo. Et c'est vrai que dès qu'on sort du tennis, on n'a plus du tout envie d'être comme ça, tu vois. On n'a plus envie du tout de se dire, on va battre autre, on va être meilleur, on va faire ça. Non, il y a le terrain pour ça. Et puis après, c'est plus se dire, on est ensemble, on est des potes, tu vois, on ne joue pas tennis, tu vois.
T'es du genre à faire des sessions de pêche la nuit avec la tente et tout, ou c'est quoi?
Ouais, j'ai fait beaucoup ça étant jeune. Et maintenant, comme j'essaye de réguler aussi le sommeil et tout ça, partout où je peux gratter, je gratte.
Ouais.
Donc, un peu moins là maintenant, mais évidemment quand je vais arrêter, ça va être à base de vacances dans des endroits incroyables où je pourrais bivouaquer et vivre un peu l'aventure.
Et non, j'étais en Patagonie, tu devineras jamais qui j'ai vu dans un fourré, il y avait Joe qui pêchait là. la rencontre improbable.
Souvent, les gens sont étonnés, tu vois. Moi, j'ai l'habitude ici, chez moi, d'aller au marché tous les dimanches, tu vois. Les gens, ils sont là, mais qu'est-ce que le premier truc, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas acheter des tomates, qu'est-ce qu'il y a? C'est normal, quoi. Pas de soucis.
Est-ce que la notoriété, un jour, t'a un peu donné le boulard, tu penses?
Non, je l'avais déjà.
Ouais. Bon, bah, ça va mieux, du coup. C'est plus facile à gérer.
Non, mais je sais pas si j'ai le boulard ou pas. Je suis comme je suis. Après, les gens, ils diront, il a le boulard, il est comme ça. T'as mes proches qui diront, Joe, c'est tout sauf quelqu'un qu'on devrait voir à la télé, parce que il est juste normal.
Et quand t'es à Paris et que tu marches dans les rues, qu'on t'arrête peut-être tous les 10 mètres, ça te fait quoi?
Bah, ça me flatte dans un premier temps. De temps en temps, ça peut arriver que ça fatigue un peu. Après, on appelle ça faire le job, hein. Je fais un grand sourire et puis ça dure moins longtemps.
Thierry Assion disait qu'il était assez protecteur avec toi. C'est vrai ou c'est une légende? Et si c'est un peu vrai, à quel niveau tu penses?
Ouais, bien sûr. Bah, Thierry, c'est mon entraîneur déjà. Donc, évidemment, il y a énormément de bienveillance. Il voit au quotidien les efforts que je fais pour être là où je suis. Il a évidemment tous les tenants et les aboutissants de ma personnalité. Et je pense que, au même titre que moi, je l'apprécie énormément. Je pense qu'il m'apprécie énormément. Et du coup, on a beaucoup de bienveillance l'un pour l'autre. Comme je disais tout à l'heure, voilà, moi, j'aime les relations comme ça. J'aime les relations humaines. Et finalement, évidemment, on prend du recul aussi sur les choses. Être un champion de tennis, c'est évidemment super. Mais la vie, elle se résume pas qu'à ça. Elle se résume aussi à d'autres choses, un chemin parcouru pour arriver à faire les performances qu'on fait et tout. Et je pense que sur ce point-là, on est exactement sur la même longueur d'onde. On a envie de vivre des aventures, en fait. Et l'aventure qu'on vit ensemble, elle est belle. Et du coup, on essaie d'en prendre.
Pour ta reconversion, t'as envie de quoi?
Bah, ma reconversion, moi, j'ai l'impression qu'elle est déjà un peu entamée. Parce que on a beaucoup de temps libre en tant que joueur de tennis malgré tout, dans l'organisation de camps pour les enfants, et puis après j'ai rêvé d'avoir une académie avec Thierry. Voilà, on s'était dit qu'on se lancerait dans ce projet là. Moi, je voulais vraiment attendre un peu avant de me lancer, et Thierry a lancé l'académie il y a 5 ans, la All-In Academy. Et on s'était dit que je le rejoindrais au moment opportun. J'ai décidé que l'année passée, c'était le moment opportun. Oui. Donc maintenant, on a associé dans cette académie. Et moi, je suis venu amener un peu un petit coup de boost en amenant avec moi des projets. Des projets qu'on dirige ensemble avec Thierry, dont un projet à l'OL City, près du Groupama Stadium, qui va avoir pour objectif d'accueillir justement la All-In Academy et des jeunes. On a également récupéré un club dans le sud, à Nice aussi, où on est en train de refaire le club à Neuf, et on va accueillir un club et notre académie aussi. Donc voilà. Et puis à côté de ça, j'ai toujours voulu savoir ce qu'il en était derrière l'organisation des tournois, donc je me suis lancé dans l'organisation avec Thierry et d'autres associés dont Jean-François Trojol à Lyon.
Ouais.
C'est pour moi que j'ai gagné, quoi, première fois sur Internet. Et c'était incroyable parce qu'on monte le tournoi et je gagne le tournoi. C'était pas bien. C'était comme des fous.
Dans le parc de la
à Lyon. Et voilà. Et je fais partie aussi un peu du tour de table à Marseille. Voilà. Et puis je fais encore pas mal de, j'ai pas mal de choses à côté. Mais c'est un peu plus perso.
Juste avant de conclure avec 3-4 questions de fin, petites. Est-ce que tu aurais une anecdote sympa avec Roger, Rafa ou Djoko qui humanise un peu ces légendes du tennis?
J'en ai une avec Rog, parce que alors j'étais pas avec lui directement, mais ça m'étonne pas forcément de lui. On a un ami qui a un terrain en gazon, pas très loin de chez moi là,
Ouais.
Et Roger est venu faire de temps en temps des petites préparations pour Wimbledon. Et en fait, quand il le terrain, il est incroyable. Il est au milieu d'un champ de pommiers, en fait. Il est assez fabuleux. Et en fait, j'ai mon ami qui me disait que, en fait, quand Roger, la première fois qu'il est arrivé, il a joué tout ça. Et donc, mon ami, il était un peu anxieux de savoir si le terrain, il était bien pour lui et tout ça. Et puis, il lui a demandé, alors, le terrain, il est bien. Et Roger, il lui a dit non. Non, j'aime pas. Il dit, mais sérieux? Et là, il dit, sérieux? Le terrain, il te plaît pas? Qu'est-ce qu'il y a? Le gazon est trop haut? Il y a un truc qui va pas? Il me fait, non, franchement, les oiseaux, ils font beaucoup trop de bruit, quoi. C'est fatigant. Et donc, du coup, j'ai trouvé l'anecdote géniale, quoi. Parce qu'en fait, évidemment, il était ironique et ça le définit assez bien.
Non. Alors, pour terminer, est-ce que tu as un livre qui a marqué ta vie?
Un livre qui a marqué ma vie. Déjà, je suis pas un très grand lecteur.
Okay.
J'aime bien les biographies, les trucs sur les sportifs, parce que j'aime bien un peu savoir ce qui se passe et tout ça. J'ai jamais été un grand fan. Je suis pas un fan, moi. Quand j'étais petit, j'étais pas fan des joueurs, j'étais pas fan des trucs. Je suis plus, on va dire, je suis fan des histoires, mais je suis pas fan d'un joueur en particulier ou des gens. Les gens qui m'ont inspiré, il y en a eu forcément inconsciemment. Je pense notamment à ma petite danse là, parce que je réfléchissais tout le temps à me dire, mais putain, mais pourquoi j'ai fait ce truc-là à ce moment-là et tout ça. Mais en fait, j'ai été influencé par un moment donné du Gary quand il avait fait cette image-là contre les Sud-Africains là, quand il marque.
Ok.
Il fait comme ça.
Ouais.
En fait, elle est restée gravée dans ma tête, cette image, en fait, et c'est ressorti plus tard. Et il y a que maintenant, en fait, que je me rends compte que c'était ça. Et il y a que ça. Et Jordan, en fait. Jordan, sur les playoffs, à un moment donné, qui met un panier et qui se retourne et qui saute comme ça avec le bras, comme ça. Cette image, elle est légendaire, en fait. Mais en fait, elle est restée dans ma tête.
Ouais.
Et en fait, ces deux images-là se sont compactées et ont fait la Tsonga Dance, tu vois.
Yes.
Et donc voilà, moi, j'ai jamais été trop fan de joueurs ou de chanteurs ou des trucs comme ça. Il y a Michael Jackson, bien sûr, qui m'a inspiré à mort. Michael Jordan, Michael Jackson, Michael Youn. Non, je sais pas. Pour l'enchaînement de Michael, chercheur Michael.
T'as une biographie, du coup, qui sort du lot?
Honnêtement, non, pas spécialement, quoi. Je pense que toutes les histoires, je suis fan des histoires, en fait. J'aime bien les histoires, elles sont singulières et tout. Quoi que ce soit les Tyson, les Zidane, les Kobe Bryant, tous ces gens-là, là, c'est, voilà, c'est singulier, en fait. Il n'y a pas vraiment André Agassi. Ces histoires-là, c'est des histoires singulières, quoi. Je suis juste fan des histoires. J'aime bien.
Yes.
Encore un grand gamin, quoi. Je peux me raconter des histoires avant d'aller m'endormir, c'est bien.
Est-ce que tu as un film référence?
Il y en a plein, honnêtement, c'est pareil, je ne savais pas en sortir. Alors, pendant des années, j'ai adoré regarder Gladiator. Gladiator, c'est un peu tout ce que j'aimais, tu vois. Les valeurs, le courage, l'amour, l'abnégation, l'injustice. Il y a plein de choses comme ça. Le fait que, voilà, un de ses meilleurs collègues, il était noir et tout, ça rajoutait un truc. C'est dans ces histoires-là, c'est fou. Enfin, mais bref, voilà, ça fait partie des choses qui m'ont tenu en haleine. Après, il y a plein de films, hein. Il y en a d'autres qui ont rien à voir, genre California Man, tu connais, j'ai regardé ça toute ma jeunesse.
Non.
En fait, c'est un homme de Cro-Magnon qui, en fait, qui a gelé à l'époque,
ouais.
Et qui se réveille à notre époque. En fait.
Ok.
T'imagines pas le film.
Ton teasing.
Quel est le film. Ah, tu connais pas ce film? Voilà, il y a un film genre 4 garçons pleins d'avenir, tu vois, ça m'a marqué.
Ah, vraiment ça.
Le dîner de cons, exceptionnel.
Yes.
Ouais, il y a 2 jours à tuer, un film avec Dupontel que j'ai adoré, les Walt Disney, j'ai adoré Aladdin, c'est mon préféré.
J'ai remarqué les tennisman et tenniswoman, quand je demande un film et un livre, généralement c'est une liste de 25 chacun.
C'est vrai?
Ouais. Quel est le concert le plus ouf auquel tu es assisté?
C'est mon fils.
Naturellement. Énorme à la croisière d'ailleurs. Cette petite vidéo est magique. J'ai adoré.
Ouais, c'est un vrai artiste, hein. Guitare, batterie, comment dire, boîte de thé.
C'est artiste complet.
Le complet. Il chante, il danse sur Michael.
Énorme. La plus grosse période de doute de ta vie, Joe?
Quand je me suis blessé au dos.
La hernie?
Ouais.
Quels seraient les mots du Joe d'aujourd'hui à ce Joe de l'époque pour le guider un peu?
Profite, c'est ce que je vais faire. Mais ça a bien marché, donc autant continuer.
Est-ce que tu as une citation que tu aimes bien?
Il y en a plusieurs que j'aime bien, quoi. Vérifie d'avoir le doigt propre avant de pointer les gens du doigt. Ça, je l'aime bien, celle-là. J'aime bien une anecdote qui dit que quand tu fais peur à une poule, bah, elle court, mais quand tu fais peur à un lion, il saute dessus. J'aime bien, il y en a plein après qui sont beaucoup plus philosophiques, mais j'aime bien celle de Mandela, je crois que c'est Mandela qui dit qu'on rate jamais, en gros, et c'est toujours une occasion de plus pour se relever.
Non, ouais. Gagne, soit j'apprends pas.
Voilà, c'est ça. Exactement. C'est celle-là. Il y a celle-là, mais bon, dans les mots, je vais un peu dire la même chose.
Est-ce que tu avais une question pour Thierry que je pourrais lui poser pendant l'épisode qu'on va terminer demain?
Ah, je sais pas, je lui demandais peut-être pourquoi, justement, il a autant d'empathie pour moi, pourquoi il est capable de quitter sa femme et ses enfants pour m'accompagner en tournoi. Hein? J'aimerais bien savoir tout ça.
Bien vu. Très bien vu.
Il est très famille et tout. Ouais. À mon avis.
Tu m'as dit tout à l'heure que quand beaucoup de personnes t'arrêtaient dans la rue, à un moment donné, tu faisais le taf. Est-ce que t'as accepté cette interview uniquement pour faire le taf? Ou si c'est pas uniquement pour ça, pour quelle raison tu l'as accepté?
En fait, j'ai accepté cette interview parce qu'en fait, quand Samy m'a envoyé éventuellement les thèmes un peu de l'interview, est-ce que le genre de questions que t'allais vouloir me poser, j'ai pensé que c'était différent et que enfin j'allais pouvoir raconter des choses sincères et raconter un peu mon parcours de A à Z.
Mais l'anecdote en Russie est exceptionnelle. Highlight. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes absolument d'avoir dans ce podcast que tu juges vraiment intéressante pour parler tennis?
Bah, t'as Gilles, mais bon, prépare une journée parce qu'il a parlé pendant une journée.
Ouais, Gilles, on essaye de le. Il est un peu dans sa tanière, je crois qu'il est un peu dur à sortir de sa tanière.
Ouais, parce que quand il sort, il a la langue tellement pendue qu'il a peur de fracasser trop de monde.
Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus dingue, Joe?
Que le monde entier se porte bien, que ma famille soit les gens les plus heureux du monde. Et que je vive jusqu'à 100 ans sans problème de santé.
Un immense merci, Joe, d'avoir pris le temps, d'avoir été vraiment généreux, quoi. Merci beaucoup.
Ouais, hein, j'avais un rendez-vous à midi, merci. Je revaudrais ça. Salut, mec.
Ciao, ciao.
Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode jusqu'au bout. Merci à Samy d'avoir rendu cet échange possible et merci à Joe de s'être livré avec générosité. Un grand merci également à Johan de me faire confiance pour ce podcast. Il a créé Tennis Légende il y a 10 ans et réalise un taf de dingue pour vous régaler au quotidien. Si t'as aimé, laisse-nous une évaluation 5 étoiles sur iTunes dès maintenant. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître ce podcast et à avoir des invités de renom. On lit tous les commentaires, ça motive énormément à continuer. Et tu peux aussi faire une story Instagram en taguant le compte Tennis Légende lorsque tu découvres un nouvel épisode. On se fera un plaisir de te reposter. La semaine prochaine, on va partir à la rencontre d'une joueuse très attachante cette fois-ci. Un petit indice, elle est suissesse et la pression, elle la boit. Alors abonne-toi tout de suite pour être sûr de ne rien rater. Pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne. Le lien est dans la description en dessous de l'épisode. À très vite pour un nouveau contenu. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.